magnétique. Bonsoir.
Fabriquer l'homme, c'est fabriquer les parents et les enfants. Les parents ne sont pas les enfants ne sont pas les parents.
La fabrique de l'homme occidental. Une émission de Pierre Legendre et Pierre-Olivier Bardet. Aujourd'hui, l'homme en meurtrier ou la chaîne rompue. Jean-Claude Chanceau, Libourne, mai 1992.
C'est l'histoire d'un garçon qui a tué d'un coup de fusil sa copine. Ou plus exactement, une copine. Justement. C'était pas sa copine au sens, c'était une copine. Et quand on examinait les faits, il n'y avait rien. Il n'y avait rien à dire. Ils étaient dans la maison, ils étaient plusieurs. Ils parlaient. Il n'y avait pas de conflit, pas de drame, pas d'histoire amoureuse entre eux qui ait été retrouvée, pas de contentieux. Et puis ce garçon, à un moment, comme dans ses jeux d'adolescent, a montré un fusil qu'il y avait dans la maison, en a montré le maniement, a introduit une cartouche là-dedans. Et puis quelques secondes après, la copine avait pris la cartouche en plein visage, enfin, et elle est morte. Voilà une histoire banale, accident. Un accident, quand on analyse ce qui s'est passé, ce qui s'est déroulé, comment cela s'est déroulé, eh bien, on va voir arriver toute une série, toute une multitude de choses qui viennent prendre une place bien lourde dans tout ça. Alors, si on fait une analyse courte, si l'expertise consiste en une analyse courte, ce que j'appellerais une analyse courte, c'est-à-dire, est-ce qu'il a des troubles mentaux, ce garçon? Quand on le regarde, il tenait des propos à peu près cohérents, etc. Enfin, on peut très vite conclure qu'il n'était pas, schizophrène, pour parler de façon très technique. Donc, rien. Donc, c'est un acte comme ça. Il a tué sa copine et puis il n'y a pas grand-chose à dire. C'est la faute à pas de chance et au destin. Alors, destin. Destin qui fait que ce garçon, effectivement, outre que son père était absent, outre que son père avait une place qui était impossible à repérer pour lui, outre que ce fusil était néanmoins quelque chose qui était inscrit dans l'histoire de ce père, outre qu'il y avait également dans le quotidien de ce garçon un vide complet et total, c'est-à-dire qu'on assistait au constat d'un garçon qui n'arrivait pas à penser, qui n'arrivait pas à rêver, qui n'arrivait à rien construire. Il était complètement soumis à la dictature d'images comme ça, d'images de télévision qui étaient là, données en pâture. C'est-à-dire d'un univers dans lequel rien n'était support de vie. Alors on peut appeler ça des dépressions blanches. Pas de symptômes, rien à dire, rien à sentir, rien à exprimer. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ce fusil va prendre une place lourde. C'est le fusil qui le relie à son père, non pas en tant qu'objet unique qui le relie à son père, mais c'est cet instrument qui est resté dans la maison et qu'il exhibe, qui montre aux copains, qui vient comme ça donner bon. Et puis les cartouches, on se rend compte qu'elles arrivent d'une autre voie, elles arrivaient par le frère d'ailleurs. C'est-à-dire que peu à peu, une mosaïque qui donne des objets épars de sa vie, mais qui viennent là d'une manière intrusive, qui ne sont pas, comme j'essayais de le dire, reliés dans une histoire qui a été composée, mais comme cela, chacun est là, émancipé, brut de tout signifiant. Et puis, on pourrait alors à ce moment-là saisir combien ce fusil va être manié d'une manière incohérente, d'une manière intempestive, d'une manière qui n'a pas de sens. C'est-à-dire que la perte de prudence, la perte de capacité d'harmoniser les choses, c'est-à-dire de pouvoir montrer calmement, va être remplacée, cette incapacité, par une espèce de maniement incohérent, agressif, pas pensé, pas élaboré. Peu à peu, ce fusil va être émancipé de tout sens possible dans cette scène. Et il va devenir l'objet central et il va presque prendre son rôle, le fusil. Le fusil s'est fait pour tirer comme s'il avait tiré tout seul, tout d'un coup. Comprenez ? C'est-à-dire que voilà un acte complètement dépouillé de toutes les irisations qui font les actes d'homme et les actes de sujet. Parce que dans la vie de cet enfant, eh bien, il y avait tellement de manque, tellement de vide, tellement de rien, qu'il fallait, pour animer un petit peu son espace intérieur, que se créent comme ça des situations de tension où les objets deviennent les ambassadeurs exclusifs de ce qui peut lui mettre de la vie à l'intérieur. Et quand les objets se mettent à être les maîtres du jeu, il s'appelle une moto, il s'appelle une bagnole, il s'appelle un couteau, il s'appelle une chaîne, il s'appelle un habit, il s'appelle des choses qui sont dépouillées de tout ce qui humanise les relations. Un habit, c'est fait certainement pour faire en sorte que le narcissisme, que ce qui fait le sujet soit soutenu, mais également c'est destiné à l'autre, c'est destiné à provoquer quelque chose qui va enrichir une relation. Là, c'est des signifiants froids. C'est une émancipation de l'objet dans un sens unique. Et ce que nous avions essayé de montrer dans cette situation, c'est qu'il y avait une situation de dépression blanche chez ce garçon, qui était absolument gravissime, qui avait échappé à tout le monde. Mais quand vous regardiez, il y avait l'échec scolaire, l'échec social, l'échec des relations, l'absence de rêve, l'absence de projet, qui se traduisait par le vide total. Et dans ce vide total, il y a eu un coup de fusil. Il y a eu un coup de tonnerre. Et le coup de tonnerre, sur le trajet de ça, il y avait la jeune fille qu'il n'avait pas envie de tuer et qui pourtant était presque condamnée à mort dans ce tableau épouvantable. Et c'est cela que nous essayons de montrer. Qu'un acte, il ne faut jamais le voir comme une espèce de circonstance fortuite, d'un événement fortuit dans un décor fortuit. C'est le crime en tant que production du hasard me paraît être quelque chose qui est malheureusement une simplification qui n'a pas de sens. Quoi. Et voilà une situation dans laquelle nous avions été très bouleversés de voir l'intensité du délabrement de ce garçon qui avait l'air si normal.
Fabriquer l'homme, c'est fabriquer les parents et les enfants. Les parents ne sont pas les enfants ne sont pas les parents. L'humanité recommence avec chaque naissant, par la différenciation. Avec chaque vie se renouvelle l'indestructible question de l'interdit, ce pilier de la vie dans l'espèce. L'interdit de l'inceste et son double, l'interdit de tuer. Le meurtre habite l'esprit de l'homme. L'homme pense à tuer. Il en rêve. Il commémore les tueries. Le meurtre fait partie des routines sociales et des grandes mises en scène religieuses et politiques qui portent le genre humain jusqu'à nous. L'homme sait tout cela, comme il sait que le jour se lève et que tombe la nuit. Mais soudain, ah soudain, la terre intérieure se met à trembler. Voici que résonne pour l'homme particulier, pour un tel, pour une telle, les cymbales du geste fou, tuer quelqu'un. Ici commence, dans toutes les civilisations, le mystère de l'assassin.
Daniel Boulet, Pessac, mai 1992.
Ça, je pourrais prendre, je l'ai écrit d'ailleurs, des dizaines de cas, comme le cas Lorty, quoi. De ces jeunes gens qui ont des pères sans limite. Grands adolescents, quoi. Hein. Chaîne de vélo, quoi. Hein. Rocker à 70 ans. Je veux dire, c'est un peu idiot ce que je dis là, mais c'est tout à fait ça, quoi. Enfin, je veux dire, c'est par exemple des gens qui rentraient toujours, qui ne pouvaient pas imaginer qu'ils n'étaient pas des amis intimes à moi, quoi. Ce type de père qui disait qu'il passait le réveillon avec moi, ou qui s'occupait de mon jardin, ou qui me connaissait très 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 bien, qu'on avait vraiment quasiment fait les choses les plus intimes ensemble. Et ces pères-là ne sont pas des pères, mais le modèle identificatoire fonctionne. Malheureusement, ce ne sont pas des pères, mais ce sont les gosses qui payent, que leurs pères ne soient pas des pères. Et il paye, je pense, à un cas d'un père comme ça, qui était devenu délégué des parents d'élèves de l'institution, était son fils. J'avais tout essayé pour que le magnétisme, l'hypnose, quelque chose de cette identification s'écarte un peu. Donc j'avais mis le garçon à peau. Si je parlais de peau longuement, je parlerais de peau comme un espace transitionnel très beau, car ça renvoie à quelque chose de très important pour moi, qui est la notion de jardin. Les Anglais, quand ils sont revenus des colonies, sont installés à peau, avant de regagner l'Angleterre, vous voyez, comme un espace transitionnel, encore un peu doux, encore un peu exotique, encore. Alors, ils ont fait tout un quartier anglais à Pau, qui est beau, comme, qui ressemble à Deauville, d'ailleurs. Vous savez, ces maisons du début du siècle, comme moi, j'imagine, la maison de l'enfant et les sortilèges de Colette et Ravel, quoi. J'avais un service de placement familial à Pau que j'utilisais énormément. Et je disais que les enfants, là, c'était comme des boutures qui refaisaient des racines. Dans cette terre de Béarn, où on mange si bien, et où on est si bien accueilli. Et c'est vrai, ça marchait. Pour celui-là, ça n'a pas marché. Plus je le mettais loin, plus il revenait, quoi, auprès de ce père fascinant. Ce père fascinant qui, dès qu'un éducateur ou qu'une limite ou qu'un juge était là, cassait ce qui était mis en place, c'est-à-dire prétendait qu'il était plus fort que tout. Il était lui-même ancien de l'éducation surveillée. Apparemment, sa rééducation n'avait pas réussi. Et ça s'est terminé tout à fait tragiquement. C'est-à-dire que le jeune homme est revenu, moi j'ai rien pu faire, j'ai fait partir à Pau plusieurs fois, il est revenu auprès de son père, il a commencé des petits vols et puis il a tué son père, c'est-à-dire qu'il a tué un clochard avec qui il vivait. Il parle de moi encore, à plusieurs reprises les éducateurs me l'ont dit, comme quelqu'un qui avait certainement tenté quelque chose, quoi. Mais là, il fallait l'intervention du parquet, du procureur, pour limiter le père. Et il fallait que ça soit dit au père, par une instance référée, dire qu'il pouvait pas faire ça. Et le condamner pour ça. Voilà ce que j'avais demandé au procureur. Mais les policiers, les parquets ont du mal à s'intéresser à la justice de la famille. On n'aime pas foutre les mains là-dedans parce qu'on s'y reconnaît quelque part. Tous, il s'agit de nous aussi, quoi. Il s'agit de nous aussi, et on préfère s'occuper des délinquants professionnels, des grandes affaires, des braquages, etc. Mais ça qui serait si important, bon, ça n'a pas été possible. Il a tué.
Le 8 mai 1984, un jeune caporal de l'armée canadienne faisait irruption dans l'Assemblée nationale du Québec avec l'intention de tuer le gouvernement. Courant dans les corridors, tirant à l'arme automatique sur les gens qu'il croisait, Denis Lorty arrivait bientôt à la chambre où se réunissent les députés. Mais ce jour-là, l'Assemblée ne siégeait pas et la salle était vide. Il alla s'asseoir dans le fauteuil du président. Une négociation s'ensuivit pour le désarmer. Après sa reddition, on compta 3 morts et 8 blessés. Dans les premières heures, on parla d'attentats politiques, par conséquent compréhensibles. D'autant plus compréhensibles que selon un sondage express réalisé par une radio locale, une majorité de citoyens pourrait l'approuver. Mais il fallut déchanter, se rendre à l'évidence, ce soldat justicier ne militait pour aucune cause. Le gouvernement du Québec avait le visage de mon père, devait-il déclarer dans l'une de ses dépositions. L'ortie, en proie à une bouffée délirante, avait voulu tuer son père. La vérité de cet attentat grotesque et sanglant, c'était donc cela. Le meurtre du père, un parricide authentique. Les assassinats commis par l'ortie, comme tout meurtre, prennent place dans une histoire d'humanisation de l'homme qui a tourné à la catastrophe. Une histoire qui toujours est une histoire de famille. L'ortie dans la vie de tous les jours était-il saint d'esprit? La question pour nous est ailleurs. Se peut-il qu'un fils en arrive là, à cette extrémité? Comment se peut-il qu'un humain en vienne à cette extravagance, tuer une image à la mitraillette? Dans la chaîne humaine, quel est le sens d'un tel geste? À partir de là, on peut sans doute comprendre pourquoi, dans tous les temps et partout, le meurtre intéresse ce que nous appelons la justice.
Yann Thomas, Paris, juillet 1992.
Je voudrais dire du juge, de la fonction du juge à Rome et par conséquent dans la longue tradition latine occidentale sur la fonction judiciaire, ceci. C'est que tout comme l'empereur, tout comme le détenteur du pouvoir et même comme tout citoyen, le juge est partagé en deux. Il est lui et il est sa fonction. Bon, il est lui et il est sa fonction. Et lorsqu'il émettre une sentence, c'est nécessairement est-ce qualité. Pour ce qui est de la fonction même du juge, que puis-je vous en dire sinon vous donner un texte qui est admirablement clair. C'est un texte qu'on lit au Digeste, dans le tout premier chapitre du Digeste, et qui concerne justement le juge. Bien. Il s'agit du prêteur, c'est pas exactement un juge, mais je ne m'entre pas dans les détails. Eh bien, le texte dit à peu près ceci. Le juge dit le droit, le juge dit le droit, même lorsqu'il prononce iniquement. Iniquement. Il dit quand même le droit, pour autant qu'il le dise au tribunal, glose au tribunal, c'est-à-dire dans un lieu institué pour que le droit y soit dit et que ce qui est dit ait valeur de droit. Donc, pour autant qu'il disent le droit, et qu'il soit respectueux de la majesté de son office. Glose sur ce texte, par exemple, un juge qui se diserait en esclave ne serait pas respectueux de la dignité de son office, ou un juge qui se déguiserait en femme ne serait pas davantage respectueux de la dignité de son office. Autrement dit, le juge, lorsqu'il dit le droit, doit respecter sa fonction, c'est-à-dire doit respecter les assignes de sa fonction et les symboles de sa fonction. En dernier lieu, et je fais là tout à fait abstraction de la question des voies de recours, mais en dernier lieu, ce qui fait qu'un jugement est un jugement, c'est-à-dire que ce qui fait que ce que dit le juge l'est conformément au droit, c'est que le juge est toujours tenu compte de la frontière qui sépare en lui l'homme singulier du détenteur de la fonction. C'est cela qui, en dernier lieu, est le critère du jugement. Et je vais vous donner un exemple. Voici un juge qui prononce une sentence capitale. Bien. Qu'est-ce qui fait que d'avoir prononcé cette sentence capitale n'est pas ici un jugement? Eh bien, c'est que le juge l'a fait chez lui, au cours d'un banquet, pour plaire à sa maîtresse, disent certains textes, à son mignon, disent les autres. Autrement dit, la sentence capitale était ici un acte purement privé, je dirais, qui non seulement avait lieu en dehors du tribunal, en dehors des lieux consacrés pour cela, mais qui, de toute évidence, tendait à faire plaisir. Bon, il se faisait plaisir à lui-même, à sa maîtresse ou à son mignon. Alors, nous avons de multiples cas de figure qui sont toujours des cas limites de cet ordre et qui nous montrent bien que pour les Romains, au fond, il faut et il suffit pour qu'un jugement soit un jugement que le juge ait jugé ès qualité.
Truche, Cour d'appel de Paris, juin 1992.
D'abord, juger, on peut le prendre sous plusieurs angles d'approche. Hein. La première, c'est de dire qu'il faut un équilibre qui fait que, à la violence qui s'exprime dans la société, réponde une violence légale si on ne veut pas avoir une vengeance. On arrive à l'essence de la justice qui est, ou qui serait violente. Hein. Violence d'ailleurs, et on y reviendra en parlant de l'audience, violence qui s'exprime dans l'architecture, violence qui s'exprime dans les expressions, comme la sanction tombe. Hein. Il y a une verticalité de la justice violente, où quelqu'un doit se sentir en bas, comme subissant une sanction. Alors, est-ce qu'il y a qu'une seule justice qui serait la justice violente? C'est un des points sur lesquels on essaye de beaucoup réfléchir maintenant. Est-ce qu'il y a une justice non violente? Autrement dit, est-ce qu'il y a une justice qui est une justice non pas imposée, mais acceptée? Et on le voit déjà dans des textes de loi en France. Par exemple, quand en 1958, on a décidé que lorsqu'il s'agit de prendre une mesure pour un enfant qui est en danger, on dit que le juge doit s'efforcer d'obtenir l'assentiment de la famille à la mesure projetée. Autrement dit, c'est à ce moment-là une justice différente. Il y a une violence dans la société, il y a un enfant qui est en danger, auquel on fait violence. Au lieu de répondre de façon violente en disant « j'enlève cet enfant » ou « je le confie à telle personne » ou « vous le gardez, mais on va vous surveiller », on s'assoit donc autour d'une table, dans un lieu clos, et on discute ensemble pour qu'il y ait une sanction, non pas qui tombe, mais qui soit acceptée. C'est-à-dire, y a-t-il à côté d'une justice verticale une justice horizontale? Donc, y a-t-il place maintenant pour une autre sorte de justice, comme on le voit dans le développement de ce qu'on appelle les pratiques de médiation, qui consiste, lorsque l'on est en face de petits délinquants, de ce qui irrite tout le monde, le petit vol, les violences entre voisins, entre automobilistes, de mettre ensemble, en face d'un médiateur, l'auteur et la victime, pour que celui qui a commis l'infraction reconnaisse ses torts, accepte de désintéresser et qu'on n'ait pas de sanctions. Voilà dans quelle direction notre justice semble s'engager, s'engage maintenant beaucoup plus que par le passé. C'est pas nouveau, hein, le médiateur, c'est pas nouveau, ça existait dans les villages. C'est peut-être d'ailleurs parce que il n'y a plus de tradition villageoise du sage qu'on est obligé d'en venir là. C'est peut-être parce qu'on a supprimé le juge de paix autrefois, hein, ce qui était un très beau terme, d'associer la paix et la justice, hein. La parole, c'est l'audience. Or, qu'est-ce que c'est que l'audience, sinon une représentation des choses? Il y a eu dans le passé un fait, et il faut qu'on puisse dire si ce fait correspond à une situation de droit interdite et qui entraîne une sanction. On passe du fait au droit à l'audience, et on y passe uniquement par la parole. Représenter, bon, ça évoque bien sûr le théâtre, et puis ça évoque aussi quelque chose qui est une transformation du fait initial. Parce que le crime ou le délit, puisqu'on parle du droit pénal, bien sûr, le crime ou le délit s'est commis à un moment donné, avec des témoins ou non, avec des écrits ou non, et il faudra, dans un lieu clos, particulier, une salle d'audience, en un temps limité, essayer de le présenter à nouveau. C'est-à-dire qu'il faudra construire quelque chose qui doit renvoyer, qui doit donner, qui devrait donner une image fidèle de ce qui s'est passé. Et cette représentation ne se fait que par la parole. Les écrits qu'on distribue sont rares, notamment en cour d'assises où les jurés n'ont pas le droit de lire le dossier. Ils ne fondent leur intime conviction, comme dit le texte, que sur ce qu'ils entendent à l'audience en espérant qu'ils seront tout le temps attentifs. Donc la parole va reconstituer une situation passée. On ne montrera pas, comme pourrait le faire le cinéma, le crime en train de se commettre. On le décrira. Et on le décrira plusieurs mois, quelquefois plusieurs années après, pour en donner une représentation vraisemblable, qui colle, qui est logique. Et la parole de l'accusation, comme la parole de la défense, sera de réunir tout cela pour en faire une construction et dire « cette situation de fait correspond au tiroir que la loi a prévu, qui dit qu'ici c'est un vol qui... » Et on essaiera de faire rentrer la situation de fait telle qu'on la reconstitue dans un tiroir préalable, qui doit exister préalable. Si ça rentre pas, allez, vous n'avez rien à faire dans la justice, on vous acquitte. Si ça rentre, à ce moment-là, faut choisir la sanction. Celui qui rentrait dans un hôtel et qui partait sans payer sa note ne commettait pas un vol. On disait que la définition du vol, le tiroir vol, ne s'appliquait pas à cette situation. Alors il a fallu une loi spéciale qui dise que celui qui prend pension moins de 8 ou 10 jours dans un hôtel et qui part sans payer commet une grivellerie. Mais par contre, quand il s'agit de savoir si celui qui trafique son compteur d'électricité pour voler de l'électricité, et la question s'est posée, est-ce qu'on peut appréhender de l'électricité? Est-ce qu'on peut la prendre? Évidemment non. Cependant, on a considéré que c'était un vol. On peut voler de l'électricité qu'on peut pas prendre dans sa main. Quelle est la parole du ministère public à l'audience? Qu'est-ce qu'il doit dire? Qu'est-ce qu'il peut dire? Qu'est-ce qu'il n'a pas le droit de dire? C'est-à-dire qu'il faut se débarrasser de cette image cinématographique où, avec de grands effets de manche, l'avocat général demande perpétuité, l'avocat arrive ensuite et demande l'acquittement, alors que tous les deux sont d'accord sur 20 ans. Ça, c'est du théâtre et c'est du très mauvais théâtre. En réalité, le ministère public, il a une obligation éthique, déontologique, parce qu'elle est même dans la loi. Lorsque il est à l'audience, il n'a le droit de dire, c'est le texte dit, que ce qu'il croit conforme au bien de la justice. Alors, qu'est-ce qu'il croit? Ce qu'il croit, lui, C'est-à-dire, c'est la part de subjectivité dans l'appréciation que je vais avoir d'une situation que je vais exposer à l'audience. Qu'est-ce qui, dans ces subjectivités, tient à l'étude du dossier que j'ai faite, de l'interprétation que j'en ai faite? Qu'est-ce qui tient à mes opinions personnelles, à ma culture, à mes négligences dans l'examen du dossier aussi? Qu'est-ce qui est la part de l'homme? Qu'est-ce qui est la part de la conviction? C'est ce que je crois, avec la part d'erreur qui est fondamentale. On y reviendra peut-être dans notre discussion sur l'erreur et sur le doute. Donc c'est ce que je crois, la part de personnel, mais de l'autre côté, ce que je crois être conforme au bien de la justice. Alors là, il y aurait quelque chose qui serait extérieur à moi, qui serait objectif, et que j'ai à apprécier. Alors qu'est-ce que c'est que le bien de la justice? Je crois qu'il faut le voir dans deux directions. D'abord, j'ai deux choses à établir. La première, c'est la culpabilité. Et deuxièmement, à donner mon avis sur une sanction. C'est la même démarche que pour le magistrat lui-même, que celui qui va juger. Est-il coupable? S'il l'est, comment le punir? Il est évident que ce qui est conforme au bien de la justice, c'est de ne jamais solliciter une preuve. D'essayer de garder un recul, le détachement, pour être sûr que l'élément matériel qu'on va avancer, que le témoignage qu'on va produire ne souffre aucune critique et qu'on peut le recueillir comme tel. C'est une exigence de rigueur dans l'examen des preuves. Puis deuxièmement, qu'est-ce qui est conforme au bien de la justice quand je dois proposer à une juridiction de prononcer une sanction? Moi, je crois que là, ça nous renvoie à 1789, à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. L'article 8 dit que la loi ne peut prévoir que des peines strictement et évidemment nécessaires. Et je ne peux proposer, et les juges ne devraient prononcer que des peines qui sont strictement et évidemment nécessaires. C'est-à-dire pas de surenchère, pas de facilité. Qu'est-ce qui va répondre dans l'optique de l'ordre public, enfin de l'opinion publique, de la société, dans l'optique de la victime et dans l'intérêt de celui qui a commis les faits, qu'est-ce qui est strictement et évidemment nécessaire? C'est pas quelque chose de mathématique, hein, c'est pas quelque chose qui saute aux yeux. Et n'oubliez pas, je reviens sur ce que je disais il y a un instant, c'est que toute décision de justice, sauf hélas en cour d'assises, pour les affaires les plus graves, on admet tellement que le juge peut se tromper, qu'on peut faire appel, qu'on peut contester et demander un deuxième jugement. Et puis, surtout, toute décision de condamnation suppose, admet, un tiers de doute. En ce sens que quand il y a trois personnes qui doivent juger en correctionnel, il suffit que deux soient d'accord pour la condamnation. L'autre peut douter, elle peut être même absolument convaincue que ça ne tient pas. Les deux l'emporteront. En cour d'assises où il y a 12 personnes, 3 magistrats professionnels et 9 jurés qui vont juger, toutes les décisions, toutes les réponses aux questions sont ainsi rédigées, oui, à la majorité de 8 voix au moins. C'est-à-dire que 8 voix sur 12. Et il y a là, dans tout notre système, une réflexion à avoir. Ça montre que le bien de la justice n'est pas quelque chose qui s'impose à l'évidence. Et quand deux personnes seulement sont d'accord pour une condamnation, la troisième n'a pas le droit de mettre par écrit une opinion séparée. Comme ça se fait dans, par exemple, à la Cour de justice des droits de l'homme de Strasbourg, où les juges qui ne sont pas d'accord rédigent leur opinion séparée, on la connaît. Non, la décision prononcée est censée être rendue au nom du peuple et il n'y a pas de contestation possible. On n'a pas à savoir si elle n'a pas été acquise à l'unanimité. Ce que je crois être le bien de la justice. Mais la justice concerne aussi, on en a parlé, l'ordre social. Sur cet ordre social, je ne crois pas qu'on puisse dire qu'un gouvernement ne doit avoir aucune opinion, aucune action. Il est même, je le pense, du devoir du politique d'examiner la délinquance et d'y apporter des réponses. Il apportera ses réponses, lui, celles qu'il croit être conformes à la conception qu'il a de la justice, lui aussi. Alors, est-ce que, lorsqu'il y a conflit entre les deux conceptions, comment faire ? Deux possibilités. Le gouvernement prend son avocat, qui vient exposer son point de vue, ou bien il passe par le procureur de la République, qui est son représentant, et qui va faire connaître son opinion. S'il y a conflit, comment le régler ? C'est de là que vient cette ancienne maxime, la plume est serve et la parole est libre. C'est-à-dire que, d'ordre du gouvernement, à l'audience, le ministère public est obligé de dire par écrit la position du gouvernement dans l'affaire. Mais ensuite, il a toute liberté pour exposer son propre point de vue. Un exemple relativement récent, très connu, c'est au moment des événements de la fin de la guerre d'Algérie, où un des généraux ayant appartenu à l'OAS était poursuivi à Paris, et où l'avocat général à l'audience est venu dire « D'ordre du gouvernement, je réclame la peine de mort, mais maintenant je vais vous expliquer pourquoi, moi, je ne requiers que la condamnation à perpétuité ». On avait là l'exemple parfait de l'application de la maxime. Autrement dit, ça montre en même temps que sur le bien de la justice, il n'y a pas de définition, il n'y a pas de règle unique, et que un gouvernement ayant une politique d'ensemble peut demander que cette politique soit appliquée par les tribunaux. Les tribunaux après en font ce qu'ils veulent, ils suivent ou ils ne suivent pas, ils rendent leur décision. Alors si maintenant on passe à la cour d'assises, et quand il s'agit de la détermination de la peine, si on envisage le parricide par exemple, et où on voit que judiciairement ça recouvre plusieurs situations différentes, vous avez d'abord le parricide qui est un parricide de défense contre le père buveur, violent, incestueux, même peut-être, parfois, et où on voit un fils ou une fille qui va lui donner la mort, même quelquefois en le préméditant, parce que la situation paraît intenable. Vous avez la deuxième situation qui, sans être un parricide au sens strict, qui est le parricide des grands-parents, qui est souvent le fait de jeunes ayant besoin d'argent et sachant que la grand-mère qui vit seule en a, va avec un camarade s'arranger pour aller lui voler et pour ne pas être reconnue, la tuer. Puis vous avez, à l'opposé, des situations qui sont extrêmement complexes et est-ce qu'il faut même que la justice les comprenne ? Et c'est le parricide du père qui aime son enfant, mais où un fossé s'est creusé entre eux. Moi, j'ai connu deux cas particuliers d'une mère divorcée qui avait dressé son fils contre son ancien mari, qui avait pourtant pour son fils une grande admiration, beaucoup de qui voulait avoir son amitié et son amour. Et un jour, le fils, un jour où ce père devait exercer un droit de visite, l'a tué. Ou encore le parricide d'une jeune étudiante brillante, entrée dans une culture nouvelle, ne supportait plus la culture de son père nord-africain. Alors, c'est le même tiroir, pour reprendre notre expression de tout à l'heure, c'est le même tiroir juridique, mais des situations différentes qui vont arriver à une absence de sanctions, comme on l'a vu encore récemment lorsqu'il s'agit d'un parricide de défense, à des sanctions très élevées lorsqu'il s'agit d'un parricide crapuleux, et à des sanctions moyennes sur lesquelles la justice s'interroge beaucoup, parce que faut-il comprendre la situation, cette situation complexe. Et alors là, vraiment, la justice, semble-t-il, ne juge qu'un acte extérieur ne rentre pas dans les motivations du fils ou de la fille qui va tuer un père qui est pourtant attaché à son enfant.
Prenons d'abord acte de l'incroyable. Tuer son père en effigie. Tuer une image n'est donc pas détruire une image matérielle, comme une photo reproduisant son modèle. C'est vouloir anéantir une image qu'on porte en soi. Tout parricide veut tuer une image qu'il porte en lui. Du même coup, il tue une part de lui-même. À travers ses victimes, Denis Lortie voulait tuer l'image du père incestueux et violent dont il était le fils. En même temps, il pensait qu'il allait mourir de ce meurtre. Ainsi, le parricide est en quelque sorte hors de l'humanité. Mais aussi, Lortie a commis son crime alors qu'il venait lui-même d'entrer dans la paternité. Il vivait hanté par la peur d'être cette image, être à son tour le père sans limite pour ses propres enfants. Ainsi, il arrive que l'homme vive une apparence de vie, qu'il vive comme s'il n'était qu'à moitié né, l'autre moitié appartient à la mort. Comment, dans ces conditions, la vie pourrait-elle vivre et se reproduire ? En poussant jusqu'au drame la question de la construction du père, qui est tout autre chose qu'une affaire biologique, le parricide nous dévoile ceci. Si nous avons besoin d'une image du père pour vivre, cela veut dire que tous les meurtres commis sont marqués de parricide et que la banalisation du meurtre, aujourd'hui comme hier, plonge ses racines dans une débâcle pour affronter cette loi de l'image, l'image du père pour les deux sexes.
Yann Thomas, Paris, juillet 1992.
Car on devient père à Rome, non pas en ayant des fils, mais en n'ayant plus de père. Ça, c'est un trait absolument formidable. Je ne suis pas père parce que je suis le père d'une progéniture, biologique ou juridique. Je suis père parce que mon père est mort. Je suis père parce que je ne relève plus d'aucune autre mouvance juridique que de la mienne propre. Le parricide ne se contente pas de tuer son père. Personne singulière. Le parricide, en hâtant les destins, détruit entièrement le montage juridique qui fait que mon autonomie de sui juris ne peut advenir que lorsque, par un événement naturel qualifié par le droit, je sors d'une mouvance juridique, celle de mon père. Bien. Nous avons sur le parricide toute une casuistique absolument invraisemblable et très riche. De même qu'à Rome et en droit romain, nous avons une casuistique très riche sur toutes les questions de calimite. Ce qui intéresse le juriste, c'est justement le calimite, c'est-à-dire ce qui ne peut pas advenir. Bon, ce qui ne peut pas advenir et ce sur quoi, bien sûr, on réfléchit le plus. Les juristes et les rhéteurs, qui tous d'ailleurs sont formés à la même école, imaginent des cas, des scènes, où un père, Satan, va se voir tuer par son fils. Voilà. Donc, si l'on voulait faire de la psychologie de bas étage, on dirait que les pères à Rome vivaient dans la terreur d'être tués par leur fils. Et nous avons d'ailleurs d'extraordinaires et d'étranges formules véhiculées par des orateurs, et notamment par Quintilien, qui nous parlent de la peur des pères. Dans une maison romaine, dans une domus, le père est remarié et vit sous le même toit que son fils. Bien, la belle-mère est évidemment une Phèdre, et toutes les belles-mères à Rome sont des Phèdres en puissance, et par conséquent, le fils est un rival pour le père. Bien. En plus, il se trouve que le père est très riche, et que bien évidemment, le fils attend la succession. Si bien que le père vit dans la terreur d'être tué pour des raisons patrimoniales et sexuelles. Ça, c'est le cœur de l'anecdote, pour des raisons patrimoniales et sexuelles. Le fils ne supporte pas la peur de son père. Bon, tous ces cas rhétoriques nous le disent très clairement. Il ne supporte pas, il vit dans l'oppression de cette peur du père, et il vit donc sous l'oppression d'une horrible injustice, que son père ne lui fait pas confiance. D'autant plus qu'il n'ose pas dire au père toutes les avances sexuelles que la belle-mère lui fait, car il aime trop et il respecte trop son père pour lui laisser envisager une telle hypothèse. Et le fils, saisi à la gorge d'un désespoir atroce, prépare un poison qu'il s'administrera à lui-même pour échapper à l'impasse de son sort. Dans la partie la plus reculée de la maison, dans la partie la plus secrète, dans quelques lieux à l'écart, in secreta parte domus, le fils est surpris par le père à concocter le poison qu'il se destine à soi-même et prend son fils en flagrant délit. En flagrant délit de quoi? De tentative d'assassinat sur lui, le père. Alors, le père tue le fils. Bon. Voilà un exemple, mais qui est répété avec toutes sortes de variantes, car les personnages peuvent être multipliés à l'infini. Voilà un exemple assez clair de... alors là, de ce qu'on pourrait appeler une représentation psychologisante, hein, de représentation de quoi? D'une structure juridique. Mais il est possible que dans la vie, les choses aient pu se passer ainsi parfois. Mais il est intéressant de voir que ces cas étant débattus par des rhéteurs et par des juristes relèvent quant à leur interprétation aussi d'une analyse de la structure juridique elle-même. Ce sont des cas d'école. Et ces cas sont à ce point des cas d'école que nous les trouvons aussi dans le Digeste. Bon, un exemple. Voici un Senatus consulte de l'époque, je crois, de Vespasien. Donc ça se situe dans le troisième tiers du 1er siècle après Jésus-Christ. Le Sénat tout entier se réunit parce que quoi? Eh bien, parce qu'un fils a tué son père. Mais pourquoi le fils a-t-il tué son père? Ou pourquoi, plus exactement, accuse-t-on le fils d'avoir tué son père? Eh bien, parce qu'il avait emprunté de l'argent. Donc, c'était un fils qui avait affaire à des usuriers, exactement comme les fils de famille dans les romans de Balzac. Bon, ce fils de bonne famille avait emprunté de l'argent, et selon le droit romain, le fils alieni iuris, c'est-à-dire ne relevant pas de sa propre mouvance juridique, est incapable d'emprunter, car le patrimoine sur lequel les dettes peuvent être gagées est nécessairement le patrimoine du père. Donc les créanciers, avant de se faire payer, doivent attendre la mort du père. D'où des contrats des clauses contractuelles qui prévoyaient que la dette n'était remboursable qu'à condition que le père meure. Alors, donc cette condition inscrite dans les contrats de prêt est une condition qui ne peut évidemment se comprendre que dans le, à l'intérieur du système juridique de la puissance paternelle. Bon. De là à précipiter les fatins, c'est-à-dire à faire que la condition juridique soit réalisée par un meurtre, il y a peu, et en imagination, évidemment, l'événement peut rattraper l'échéance de la condition juridique. Et le Makedo en question, qui aurait tué son père ou précipité les décès de son père, a été à l'origine d'une loi qui régit tout le droit de la dette des fils jusqu'au XVIIIe siècle, à savoir, les dettes des fils ne sont pas exigibles. Le parricide est un crime incroyable, scelus incredibile, disent certains textes, non seulement rhétoriques, mais aussi juridiques. Non pas pour les raisons psychologiques qu'on croit. Bon. C'est-à-dire, bien sûr, il est invraisemblable que quelqu'un ait songé à tuer son père. Mais il faut bien je dirais, inscrire cette question dans la définition du parricide comme cas limite d'une transgression qui met à bas, non pas la vie d'un père singulier, mais le fonctionnement même des institutions et particulièrement le fonctionnement des mécanismes successoraux. Mais ce qui rend finalement plus fondamentalement ce crime impossible, c'est que le meurtrier lui-même finalement n'appartient à aucun monde possible, à aucun monde réel. Et cette non-appartenance du meurtrier aux éléments du monde nous est montrée par la symbolique de la peine. Car le meurtrier est évacué. On pourrait dire plutôt que tuer, mais de quelle manière ? De telle manière qu'il n'ait contact ni avec l'air, ni avec l'eau, ni avec la terre, ni avec la lumière du jour, c'est-à-dire avec aucun des éléments nécessaires à la vie. Alors, on promène le parricide dans la ville sur un char tiré de Benoît. Son visage est recouvert d'un sac de cuir, afin que la lumière du jour n'atteigne pas ses yeux. Puis, arrivé au bord du fleuve, ou s'il s'agit de la mer, du rivage de la mer, on le fait descendre de ce charroi et il porte de là de hautes semelles de bois qui l'isolent de la terre. Ensuite, on le coud dans un sac de cuir et on le jette à l'eau et on le coud dans ce sac de cuir parfaitement hermétique afin que l'eau même ne pénètre pas le sac et qu'il soit totalement isolé. De sorte qu'on ne met pas à mort le parricide. Le parricide n'est pas mis en contact avec les instruments de l'exécution capitale qui, touchent le corps du citoyen ou le corps de l'étranger. Il n'est ni citoyen ni étranger, le parricide. Il est absolument autre, et plus aucun contact n'est possible avec les éléments naturels. Il est plutôt livré à son propre destin. Il est privé à... le parricide est livré à sa propre subjectivité, il est réduit à sa propre personne. Il n'est même pas livré, comme on l'a dit, aux dieux de la mort, aux dieux infernaux, on ne peut même pas dire cela, le parricide est réduit à soi-même. Il s'est abstrait du monde des humains, il s'est abstrait du monde de la nature, il s'est abstrait du cosmos, il s'est abstrait de tout. Il n'est plus que lui-même, il existe encore, mais comme parricide, être abominablement singulier.
Let all be
Le parricide nous enseigne aussi que la reproduction humaine suppose le sacrifice à l'interdit. L'humanité a toujours su, en Occident comme partout, que la relève des générations suppose une perte, une dette à payer. L'homme de son vivant apprend à mourir, à s'effacer, à céder la place à ceux qui le suivent. La succession des parents et des enfants, la relance de la vie, voilà la quintessence du sacrifice qu'impose aux deux sexes la construction du père. Les parents ne consomment pas les enfants. Ils les introduisent à la loi de l'humanité, qui est la loi de la justice entre les générations. Nous apprenons cette loi par la société. Ce sont les sociétés qui échafaudent un discours de la limite et de la dette à payer. Ce sont les sociétés qui enseignent au moyen des règles de la filiation comment les parents meurent symboliquement pour rendre la vie possible aux enfants. L'idée qu'il y ait une justice devient alors compréhensible, car on comprend l'égalité de tous, les parents et les enfants, devant la question de la limite, c'est-à-dire de la mort symbolique. Là encore, la religion, qui fut la première technique de la vie sociale, nous renseigne. Voyez une scène fameuse de la Bible que les Juifs appellent la Akeda, la ligature. L'Éternel a commandé à Abraham de lui sacrifier son fils Isaac. Un rabbin de la tradition commente ainsi ce texte. Lorsqu'Abraham voulut ligoter Isaac, celui-ci dit « Père, je suis jeune. J'ai peur que mon corps se débatte sous l'angoisse du couteau. Alors attache-moi, attache-moi très fort. » Et Abraham ligota Isaac. Ce rabbin disait encore, Abraham lança la main pour saisir le couteau, mais ses yeux laissaient couler des larmes, et ces larmes de compassion du père tombaient dans les yeux d'Isaac. La suite, vous la connaissez. L'Éternel envoie un bélier qui remplace le fils sur l'autel du sacrifice. Ce récit poétique sur le renoncement dit le fond des choses. Au nom de ce qui les dépasse tous les deux, le père consent à immoler ce qui est pour lui le plus précieux. Il meurt ainsi à lui-même, et le fils lui aussi se soumet.
Daniel Boulet, Pessac, mai 1992.
C'est une femme qui un jour vient du Médoc. J'avais le Médoc et le Médoc, bon, les gens de Médoc sont pas comme les gens de Bordeaux, quoi. Ils venaient en chaussons, en charentaise dans mon bureau avec une odeur de feu de bois, quoi. c'est pas la même chose, quoi, je veux dire. C'est pas la même chose que d'habiter Clavaux, Saint-Michel, les quartiers populaires de Bordeaux. Et cette femme avait eu la malchance. Cette femme était dans un village du Médoc. On était quasiment dans une position de servage, quoi. C'est très curieux, la structure sociale, encore, autour des châteaux. Et où je crois, elle avait l'obligeance de pouvoir satisfaire beaucoup d'hommes dans le village. Et elle rendait un grand service social à plus d'un. Mais néanmoins, elle était quand même considérée, très mal considérée. Et elle s'est retrouvée avec une flopée d'enfants. Et un beau jour, elle a eu la malchance, la chaleur, etc. Qu'un de ses enfants meurt de... Je me rappelle plus de ce nom de la maladie. C'est très connu. Quand j'avais des bébés à la maison, je savais, mais où les enfants se déshydratent complètement, quoi. Hein. Je me souviens plus du nom, tant pis. Et l'un des enfants est mort. Donc, on m'a saisi pour lui retirer tous ses enfants. Mais je ne lui ai pas retiré tous ses enfants. On a placé quelques-uns chez des nourrices, puis d'autres sont restés, etc. Et puis, petit à petit, cette femme a... Eh ben, elle a donné un père à ses enfants, des pères à ses enfants. Quoi, hein? Bon, voilà. Et elle a donc pu tenir. Mais les gens ont pensé que quand même c'était trop, quoi, que c'était vraiment un risque social trop grand que de la laisser avoir des enfants comme ça. Et on lui a ligaturé les trompes. Et un jour, qu'elle était dans mon bureau, où on revoyait la situation de ses enfants... Et elle m'avait apporté, sans savoir que c'était mon vin préféré, une bouteille de Saint-Estèphe. Vous voyez, les pots de vin. Mais je ne l'avais pas accepté comme un pot de vin. Je l'avais accepté comme quelque chose d'un échange important qui pouvait, entre nous, se jouer à ce moment-là, de cette façon-là. Quoi. Hein? Je crois qu'elle me devait trop de lui avoir laissé ses enfants. Enfin bon, et... J'avais été un peu la seule contre tout le système social qui voulait lui retirer, et je lui avais laissé, elle m'a apporté une bouteille de Saint-Estèphe, je l'ai acceptée, et je l'ai bu, elle était très bonne, cette bouteille de Saint-Estèphe. Je crois pas qu'elle me soit restée sur l'estomac. Et la main sur la clenche de la porte, elle m'a dit, au revoir monsieur le juge, vous pouvez pas faire quelque chose pour qu'on me retire ma ligature des trompes? Elle s'était pas trompée, je crois, c'est le cas de le dire, effectivement, enfin, je crois qu'à ce moment-là, la justice représentait bien un droit et non pas un arbitraire, ce qu'avait pu être d'autres pouvoirs, peut-être le pouvoir médical et social.
Quel est l'arsenal que vous avez à votre disposition ?
Ça va de la parole du juge à travers ce que nous appelons l'admonestation, qui est l'acte le plus simple en droit pénal, où nous nommons un acte et nous lui donnons statut légal. C'est-à-dire que ce qui est sauvagerie et pulsion devient un vol. Voilà la première fonction, c'est-à-dire d'humaniser l'acte posé en lui donnant un nom. Voilà. Tu as commis un vol, ce qui ne veut pas dire que tu es un voleur. C'est pas du tout la même chose. Tu as commis un vol et ce vol se rétribue de telle façon. La première des choses, c'est la parole séparatrice du juge à travers l'admonestation. Eh bien, je constate que tu as commis un vol, j'ai fait le tour des choses, je viens d'entendre tes parents, j'ai le sentiment qu'il ne s'agit pas de quelque chose de grave, mais j'ai le sentiment, je te dis que c'est quelque chose d'interdit, et que si tu recommençais, tu paierais plus cher. Alors aujourd'hui, je te dis simplement que c'est interdit, et puis tu vas repartir chez toi. Et puis on n'en parlera plus. Et puis à 21 ans, ça sera effacé. Et puis ça marche, ça. Ça marche parce que dans 90% des cas, le gamin, il attendait que ça. C'est ce qu'il souhaitait. Et 20 ans après, vous le rencontrez dans un supermarché et il me rappelle ça. Ce moment qui, pour moi, était un moment banal de l'admonestation qui avait duré 20 minutes. Et il me dit, ça a changé notre vie parce que, vous savez, mon père ne me laissait pas sortir et puis je pissais au lit. Et puis alors, à ce moment-là, on a pu reparler de tout ça à la maison. Puis ça va beaucoup mieux.
C'est français. Je crois qu'il y a un masochisme si français, avoir toujours tout ce qui marche pas. Mais enfin, je veux dire, ça marche bien tout ça, quoi. Ça marche bien. C'est de la négociation, comme pourraient en faire les Dogons d'une autre manière, c'est tout. Garapon vous en parlera.
Ça, c'est le plus simple, l'admonestation. Et le reste de l'arsenal à votre disposition?
Ça va jusqu'au plus grave, c'est-à-dire au pénal, l'emprisonnement. L'emprisonnement d'un mineur. Et puis, au civil, le retrait d'un enfant. Et notamment le retrait d'un bébé.
Alors, revenons à l'affaire Lortie. Il n'est pas banal qu'un criminel demande sa condamnation, qu'il essaie de répondre de son acte, et comme il l'a dit au procès, de comprendre le pourquoi, le comment et la raison de ce qui s'est produit. Le procès a été pour lui l'entrée enfin dans la question du père, l'épreuve de la limite. On sait bien que le plus grand nombre des meurtriers n'en sont pas là et restent collés à leur barbarie. Cependant, nous ne devons pas oublier la vraie justification du procès intenté contre l'assassin, séparer de son crime celui qui tue, faire que sa part maudite devienne sa part de sacrifice. Un procès criminel n'est pas un règlement de compte, mais un rituel de séparation du meurtre. Sommes-nous assez civilisés pour le comprendre ?
Jean-Claude Chanceau, Libourne, mai 1992.
La justice, ça reste quand même un grand et immense moment d'humanité. C'est-à-dire un moment et un lieu où des êtres humains, des hommes, décident de mettre en parole ce qui, d'une situation infernale, je dirais, venant de l'enfer, doit revenir à une situation d'homme. Et que l'espace de la justice, là où se parlent les choses, c'est une immense conquête, je crois, de l'humanité. Et car la justice, c'est d'abord ça. C'est d'abord la possibilité que des paroles viennent donner du sens à ce qui n'en avait plus, et qu'à partir de là, les hommes essaient de distribuer des circonstances et des décisions qui voudraient essayer d'en atténuer les dégâts et de réaffirmer une possibilité de reprise. À ce titre-là, je crois que la justice, elle s'inscrit dans une mission d'humanisation. Et à ce titre-là, je crois qu'un procès, s'il n'a pas de prétention thérapeutique, un procès, il restitue un espace dans lequel on dit aux hommes, c'est la parole d'homme à homme qui doit régir les relations entre humains. Freud disait, le jour où le premier homme a choisi d'insulter son voisin plutôt que de le dévorer ou de le tuer, alors ce jour-là, il a fondé la civilisation. Et la culpabilité d'un sujet sont liées, et on saisit bien par exemple que la peine est vide de toute signification chez quelqu'un qui n'a pas accédé au sentiment de la souffrance produite chez l'autre, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas le sentiment d'avoir été au sens premier auteur de, et que parfois la peine c'est quelque chose de formel dont peut-être l'ensemble social a besoin, parce que la peine va réguler une partie de la haine, une partie de la souffrance non affectée qui peut devenir impossible à mettre ailleurs. Ça serait la peine vengeance qui demande là aussi tellement d'humanité, tellement de réflexion, tellement de sérénité de la part de la justice, mais qu'il ne faut pas nier. Mais également la peine rédemption. C'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'il faut alors bien saisir ce qu'il en est de la culpabilité, ce que cela peut vouloir dire. La plupart du temps, lorsque nous avons à juger des auteurs de faits graves, nous nous rendons compte qu'ils rendent compte d'une culpabilité qui a peu à voir avec les faits et peu à voir avec l'histoire de l'ici et de maintenant. Et ce que nous croyons percevoir dans la violence des faits, convoque des choses qui sont restées au tréfond de l'individu et enfouies, et ce qui fait que la peine qui vient parler des faits ne parlera pas à ce qui était en cause dans les faits. Alors il ne faut pas se leurrer sur peut-être la valeur de rédemption d'une peine. Et peut-être que c'est ça la première peine, c'est-à-dire la peine du travail. Alors la peine du travail, ce n'est pas la peine d'une sanction. C'est-à-dire montrer au sujet comment il faudrait qu'il puisse travailler sur lui-même, travailler en lui, qui nous renverrait au vrai sens de la prison. C'est-à-dire la mise dans une situation d'isolement qui devrait rester propice à une recherche, une rencontre du sujet avec ce qui a fait l'horreur de la situation et qui en même temps, peut-être dans une forme d'ambiguïté, rendrait compte aussi à la société de ce qu'elle est en droit d'exiger de réparation. Je crois bien préciser ces choses. Ceci nous amène à bien saisir qu'il faut répéter et répéter que chaque fois que la prison ajoute à l'atteinte à la dignité, il y a un acte qui fabrique du crime à venir, pas seulement dans la récidive du sujet qui est en cause, mais dans tout ce que la collectivité va transporter de culpabilité et de poids de savoir qu'elle prive les hommes d'une capacité d'entrer en dignité. Et que la lutte pour la dignité de la prison, ça n'est pas simplement un des vecteurs d'une lutte sociale au sens plus large, mais ça serait déjà au sens de l'humain tout à fait respectable, mais que c'est d'abord, je crois, une des premières voies de la reconquête humaine qui est la première prophylaxie contre le crime. Et qu'il nous faudrait savoir trouver les mots pour que chaque Français sache, chaque être sache, que à dénaturer les êtres dans des prisons, c'est dénaturer la marche vers l'humanité, vers l'humanisation des relations humaines. C'est-à-dire qu'il faudrait que notre société soit capable d'exprimer que sa première mission, c'est de ne jamais céder, de ne jamais céder sur l'inviolabilité de l'humanité et de la dignité des êtres. Et ceci, c'est la première. C'est pour ça que le combat pour des prisons dignes est un combat qui nous concerne tous, totalement, intégralement, et ça n'est pas une espèce de sollicitude malsaine qui ferait du criminel le héros auquel il faut destiner une pitié larmoyante. C'est tout autre. C'est l'humanité qui est appelée dans son devoir d'humanité. Et ça, c'est le combat de l'homme, je crois.
C'était La Fabrique de l'Homme Occidental, une émission de Pierre Legendre et Pierre-Olivier Bardet. Aujourd'hui, L'Homme en meurtrier ou la chaîne rompue. Avec, autour des textes de Pierre Legendre, Jean-Claude Chanceau, Daniel Boulet, Yann Thomas et Pierre Truche. Une émission préparée par Rose Greune et réalisée par Jean Couturier. Mixage, Marie-Dominique Bougot, assistée de Pierre-Guillaume Clos.
C'était la troisième d'une série de quatre émissions, diffusée la première fois le 15 octobre 1992. Prochaine et dernière, le pouvoir généalogique de l'État.